Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Europe 1, il est 4h58, nous sommes le lundi 4 février et quoi de mieux pour bien commencer la semaine que de souhaiter un bon anniversaire à un ami. Oui, j'ai bien connu Marivaux, célèbre dramaturge du XVIIIe siècle qui a donné son nom au terme marivaudage. Le Larousse nous dit « marivauder, tenir ou échanger des propos, en particulier dans le domaine amoureux, d'une galanterie délicate et recherchée ». Une définition qui colle merveilleusement aux mœurs de l'équipe de Debout les copains, qui après 6 mois de cohabitation devrait plutôt être baptisée « Debout les coquins ».
Ça va grimper doucement.
Hein. J'aime ça. Ouais, oui.
Chauffe Marcel.
Des fêtes libres et même libertines.
Homme viril.
Il est chaud.
Je me disais qui le remplace quand il n'est pas à la nuit.
On dirait qu'il est épileptique. Hein.
Les saleuses sont à l'œuvre.
Ça va le faire. Lâche prise.
Bonjour Eva Rock, Céline Dacosta et Jérôme Lacroix qui nous a déjà rejoint en studio.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Refroidissez-nous tout de suite Céline, quelle est la tendance météo du jour?
Mais froid, ça c'est certain, déjà dégelé généralisé ce matin. On est un petit peu sous les normales de saison et puis une nouvelle perturbation pluvieuse qui arrive par le nord-ouest et qui va porter quelques flocons sur les plaines de Normandie, sur les collines même normandes en fin de journée.
Je m'en fous, j'y suis plus. Ah, voilà.
Mais c'est dommage, vous aimez la neige.
Égoïste.
En plus.
C'est vrai.
Et puis plus les neiges mêlées pour les autres, hein, du Poitou-Charentes jusqu'au Hauts-de-France, on va voir ça en détail tout à l'heure.
Moi j'ai eu un grand soleil à Cabourg ce week-end.
Ouais, beau.
Eva Rock, vous êtes la pièce maîtresse de cette émission, oui. Vous êtes notre courroie de transmission avec les auditeurs. Quelles questions pertinentes allez-vous leur poser?
Vous savez
ce
que
matin
c'était la folie du Super Bowl cette nuit, on va sans doute en reparler avec Jérôme Lacroix évidemment. Mais vous, quel sport vous aimez regarder à la télévision et pourquoi? Vous verrez, tous les auditeurs n'aiment pas ça en fait.
Tout me paraît en place, tout est prêt pour 2 heures de... Debout les copains, la rigueur de l'info, la fraîcheur de l'humour. Céline, un premier commentaire constructif à quelques secondes de 6h.
C'est bon le pneu des Charentes.
Oui, c'est bon, si je n'étais pas planté sur l'heure, ça aurait été encore mieux. Debout les copains, c'est parti.
C'est moi normalement qui fais ça.
C'est vrai.
Nous
et
sommes
comme
aujourd'hui.
Quoi, c'est un métier.
Le lundi 4 février, merci ouais d'avoir choisi repas. Déjà, j'ai la bonne date.
Ouais, c'est ça.
Il est 5h, très bon réveil. Ouais. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce lundi 4 février, c'est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
L'avion qui transportait Emiliano Sala a été localisé au fond de la Manche par l'équipe de sauveteurs mandatée par la famille du footballeur. Porté disparu avec son pilote depuis 2 semaines, les précisions dès le début du journal. Des inspecteurs de la Commission européenne doivent arriver en Pologne ce matin après la diffusion en France, notamment de viande avariée. Et puis la première défaite du PSG en Ligue 1 de football cette saison à Lyon, 2-1 hier soir.
Europe 1.
Je ne peux pas y croire, c'est un mauvais rêve. Les mots sont d'Horacio Sala, le père d'Emiliano Sala, le footballeur argentin. Un père proche du désespoir qui vient d'apprendre la nouvelle. L'épave de l'avion qui, il y a 2 semaines, emmenait son fils et le pilote de Nantes vers Cardiff a été retrouvée hier. Le monomoteur avait disparu des radars au-dessus de la Manche. Anaïs Cordoba.
Il est environ 9h du matin quand le sonar à bord du bateau d'exploration détecte une présence au fond de la mer. À la tête de la mission de recherche sous-marine, le spécialiste de la traque des épaves, David Mirnes, mandaté par la famille du footballeur. Avec son équipage, il parvient à affiner la zone de localisation. Il la transmet alors au vaisseau du bureau d'enquête sur les accidents aériens qui finit par reconnaître visuellement l'épave de l'avion. Dans la journée, les familles d'Emiliano Sala et du pilote David Ibbotson sont informées par la police. Les enquêteurs britanniques qui n'ont pour l'instant précisé ni l'heure ni le lieu exact de la découverte de l'avion doivent s'exprimer aujourd'hui. Samedi soir, lors de son premier match à domicile depuis le drame, Cardiff City a rendu hommage à Emiliano Sala avec cette banderole. On ne t'a jamais vu jouer ni marquer, mais Emiliano, notre magnifique Bluebird, nous t'aimerons pour toujours. Londres. Anaïs Cordoba, Europe 1.
L'actualité ce matin, c'est aussi cette tribune sur Europe1.fr. 12 grands chirurgiens dénoncent la pratique illégale des chirurgies du cancer en France. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et Europe 1 révèle que chaque année, des milliers de patients se font opérer dans des établissements qui n'ont pas l'autorisation de pratiquer ces chirurgies. Des pratiques dangereuses pour les patients qui augmentent le taux de mortalité de 30%.
Europe 1, il est 5h02.
Gérald Darmanin reste au gouvernement. Le ministre du Budget l'annonce dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Depuis plusieurs semaines, la rumeur d'un départ circulait, notamment après le décès du maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, qui assure qu'il y sera candidat à Tourcoing au municipal en 2020. Emmanuel Macron dans l'Essonne aujourd'hui à Évry-Courcouronnes, rencontre avec 300 élus, représentants d'associations mais aussi des habitants. Premier déplacement en banlieue dans le cadre du grand débat. Le chef de l'État qui pourrait convoquer un référendum à l'issue de ces discussions le 26 mai, jour des élections européennes, avec des questions sur la réduction du nombre de parlementaires ou encore la limite des cumuls des mandats. Laurent Wauquiez, patron des des Républicains estime qu'Emmanuel Macron prendra, je cite, « un grand risque en cas de consultation coupée des priorités des Français ».
Des inspecteurs mandatés par la Commission européenne doivent arriver ce matin en Pologne après la diffusion de viande avariée sur le marché français.
800 kilos pour l'essentiel localisés, mais problème, une partie de cette viande avariée a été intégrée, mélangée à un ensemble qui était déjà sur le marché. Résultat, un lot de 145 kilos reste quasiment intraçable. Ces consommateurs rencontrés par Victor Dolande devant une boucherie parisienne redoublent de vigilance.
C'est sûr que ça fait toujours peur, mais bon, quand on va chez des bons bouchers, en général, on n'a pas de soucis.
Quand je mange la viande, je fais attention à ce que ce soit de la viande de qualité, donc j'essaie d'aller dans les boucheries où je sais que les gens travaillent proprement.
Ça confirme le fait qu'il faut être très vigilant. Si nous, en tant que consommateurs, on fait attention à ce qu'on mange, on réduit nos quantités et qu'on est plus exigeant, bah, ceux qui ne vendent plus arrêteront de produire de la viande de mauvaise qualité. Consommons intelligent.
On a de la bonne viande en France, il faudrait qu'on reste chez nous et pas acheter là-bas en Pologne.
Merci beaucoup, madame.
À Marseille, 3 mois après le drame de la rue d'Aubagne, 8 morts dans l'effondrement de plusieurs immeubles, 2000 personnes évacuées. Selon un rapport, 200 immeubles sont concernés par un risque d'effondrement. 2 d'entre eux vont être détruits demain, c'est au menu du conseil municipal aujourd'hui. La France devrait reconnaître aujourd'hui l'opposant Juan Guaido à la tête du Venezuela. Le président élu Nicolas Maduro a rejeté l'ultimatum des pays européens, dont la France, qui demandait l'organisation d'une nouvelle élection. Et puis le décès de Josette Audin, 87 ans, elle était la veuve de Maurice Audin, un jeune militant communiste tué par l'armée française en Algérie en 1957. En septembre dernier, Emmanuel Macron s'était rendu à son domicile de Seine-Saint-Denis pour reconnaître auprès d'elle que son mari était mort sous la torture du fait, je cite, d'un système légalement institué par l'ancienne puissance coloniale française en Algérie.
Et Jérôme, après un week-end où la tartiflette et la chandeleur ont fait beaucoup de mal à nos corps d'athlètes, surtout au vôtre, je propose qu'on passe au journal des sports, ça nous fera beaucoup de bien. À la une, un de chute pour le PSG.
Et oui, première défaite.
Ils ont perdu.
Première défaite en Ligue 1 de football cette saison, à la 23e journée, 2-1 à Lyon. Bravo aux Rodaniens qui s'imposent à l'issue d'une rencontre de haut niveau, riche en occasions. 15 arrêts effectués par les deux gardiens, c'est le record en L1 cette saison. Les Parisiens avaient pourtant ouvert le score par Di Maria, mais d'abord une erreur du gardien champion du monde Alphonse Areola, plus un pénalty concédé par le Brésilien Thiago Silva ont plombé les Parisiens, pénalty contesté par le PSG, mais converti en tout début de seconde période par un autre champion du monde, le Lyonnais Nabil Fekir.
Ce soir, on a été tous solidaires, tous soudés. On a fait les efforts les uns pour les autres. Il y a eu beaucoup d'assauts parisiens, mais voilà, on a su résister et aller chercher cette victoire. Une fierté, ouais, ça fait toujours plaisir. Nous, on a un objectif, c'est le podium. On s'est fixé dès le début de saison. Il faut continuer sur cette lancée-là.
Des propos recueillis par Pascal Auclair. Et à Paris, l'absence de Neymar, qui est blessé, s'est ressenti côté offensif avec des occasions ratées, notamment par Kylian Mbappé. La défaite tombe mal parce que dans 8 jours, mardi 12, c'est le déplacement à Manchester United, 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et des Mancuniens qui ont encore gagné hier 1-0 face à Leicester avec encore un très bon Paul Pogba.
On est vraiment maudits parce qu'avant ils ne gagnaient plus Manchester.
Ouais, depuis qu'ils ont changé d'entraîneur,
ils n'arrêtent plus de gagner. Malgré la défaite, les Parisiens restent largement premiers,
bah oui,
Jérôme.
10 points d'avance sur les Dauphins Lillois, les Lyonnais 3e à 3 points de ces Nordistes. Le dernier résultat d'hier, Nîmes-Montpellier, le derby. Un but partout. Un mot de cyclisme avec la fin cette nuit du Tour de San Juan en Argentine. Dommage pour Julian Alaphilippe, le maillot à poids du dernier Tour de France qui doit se contenter de la 2e place. Malgré le gain de 2 étapes et le statut de leader pendant 4 jours sur 7. Eh ben oui. C'est un Colombien de 30 ans qui porte bien son prénom puisqu'il s'appelle Winner Anacona. Il a remporté le classement général.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
6, le joueur de foot américain Tom Brady est devenu cette nuit le seul joueur de l'histoire à remporter 6 Super Bowls, 6 fois vainqueur de la finale du championnat de foot américain. Oui, il a gagné cette nuit à Atlanta avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, équipe de Boston, enfin près de Boston, 13-3 face aux Rams de Los Angeles. Le Super Bowl et son célèbre show de la mi-temps, toujours un immense spectacle. Et cette année, la star, c'était lui.
Gilbert Montagnier.
Ah,
là, ils ont vraiment
les
bons.
C'est pas
qui,
c'est
qui? Maroon 5. C'est Gilbert Montagnier.
Et il paraît que le match était tout pourri. De ce que me disent les auditeurs.
Ils l'ont surnommé le Super Bowl.
Ah, le super ennuyeux.
Le temps poli.
Pas mal. Merci. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Jérôme, ce matin, je vous laisse choisir la chanson qui accompagnera votre sortie.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé Mireille Mathieu.
C'est vrai, alors je vous dis.
Bravo,
mon GG.
Moi, j'ai tout perdu.
Europe 1.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, changer de vie, beaucoup caressent le projet, mais peu passent à l'acte. Inspirons-nous de ceux qui ont osé. Chaque matin à 5h10, Europe 1 leur rend hommage. Aujourd'hui, nous découvrirons Eve. Elle était responsable des ressources humaines dans une entreprise. Désormais, elle élève des chèvres. Mais tout de suite, un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Quel temps fait-il ? Une nouvelle perturbation arrive par la pointe bretonne.
Mais tout à fait, notre chère pointe bretonne. Elle arrive avec du vent dès ce matin et s'étendra jusqu'au Cotentin assez rapidement. Perturbation qui avancera dans la journée et apportera en fin d'après-midi neige ou pluie et neige mêlée entre le Poitou-Charentes et les Hauts-de-France. Ailleurs, c'est gris, sauf sur le flanc est et près de la Méditerranée. Quant aux températures, elles sont bien froides ce matin avec des gelées généralisées. Cet après-midi, la moyenne va de 2 à 8 degrés. Vous voyez, ça reste encore bien froid. 11 à 15 quand même sur le pourtour méditerranéen sous le soleil.
Eva Rock.
Eh bien, on vient d'en parler. On parle du Super Bowl depuis ce matin, depuis cette nuit, parce que c'était la folie aux États-Unis. Mais vous, quel sport vous aimez regarder à la télévision ? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Eh bien, avec le hashtag Europe 1, vous êtes déjà très nombreux à nous répondre. Caro, elle nous dit, c'est le hand. Je perds toute crédibilité si je suis accompagnée. Mais la vitesse du jeu, l'intensité, l'évolution rapide du score rend ça très sympa à suivre. C'est l'occasion de crier, de stresser. On passe par toutes les émotions et ça fait des souvenirs. On ne peut être que d'accord avec Caro. Carlisa, elle nous dit, mes sports préférés passent rarement à la télé. Elle est fan de volley et de danse contemporaine.
Le volley, c'est
ouais,
rare. Hein.
Exactement. Alors, elle regarde toutes les autres finales de foot, de rugby, de hand aussi. Et puis, Taco, elle nous dit la vérité. Je déteste le sport à la télé, mais quand tu vis avec un journaliste sportif, il n'y a que ça, malgré toi.
C'est la femme de Jean Lacroix ?
Non, on ne sait pas. Elle ne veut pas nous dire. Je lui ai posé la question. Mais
GG, il y a ta femme qui a appelé.
C'est un mystère. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci, Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures où la fantaisie enlace l'info, comme il m'arrive dans la CEVA lorsqu'on a vraiment trop bu de Perrier au pot du CE. Deux heures d'allégresse informative et de belles découvertes, comme celle de ces hommes et de ces femmes qui un jour ont changé de vie. Ce matin, c'est le témoignage de Eve Achard, ancienne responsable en ressources humaines. Elle a choisi il y a 2 ans de quitter la vie de bureau pour partir élever des chèvres. Un changement radical, très influencé par sa vie familiale.
Fallait oser.
J'ai 2 enfants de 12 et 6 ans et le premier a été hospitalisé il y a 3 ans, une bonne dizaine de jours sur une pathologie d'insuffisance respiratoire. Et je me suis dit, mais en fait, on court après quoi ? Et je me suis dit, il faut que je me lance dans cette voie qui m'appelle. Donc là, j'ai mes chèvres depuis avril 2018, donc c'est une belle aventure maintenant. Donc j'ai la chance de pouvoir emmener mes enfants à l'école et ensuite d'aller à la ferme et de pouvoir nourrir mon cheptel de 34 chèvres, en prendre soin et réaliser mes petits fromages de chèvre directement à la ferme.
Pour mettre toutes les chances de son côté, Eve Achard a passé un bac professionnel en conduite d'élevage.
Ah oui, alors elle ne vit pas encore de son activité, mais elle compte bien développer son projet en ouvrant sa ferme à des écoles à partir du mois de mai prochain. Alors pourquoi avoir choisi d'élever des chèvres et seulement des chèvres ? Eh bien, réponse.
Les chèvres, c'est très mignon, c'est câlin, c'est quand on arrive à bien les domestiquer, entre guillemets, on a l'impression d'avoir un petit chien avec soi. Et ça rend énormément d'affection. On ne croirait pas, mais c'est plein d'affection. Ça recherche les câlins. Voilà, c'était vraiment un concept nouveau pour moi, mais très important.
Et pour nos auditeurs qui habitent dans la région Lyon, il est possible de visiter cette ferme située à Jonage, dans le Grand Parc. Tous les renseignements se trouvent sur Internet. Il suffit de taper « Format Folie » dans votre moteur de recherche sur Internet.
Et si vous aussi, vous souhaitez témoigner d'un changement de vie ou d'un défi que vous vous êtes fixé, vous nous écrivez sur europe1.fr ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Et il est 5h12, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui mélange la rigueur du journalisme et la fantaisie potache, un peu comme si l'Orchestre Philharmonique de Berlin reprenait AC/DC. Si. À suivre, justement, la musique classique sera à l'honneur de Lundi les bons tuyaux, votre incontournable rendez-vous culturel. On fêtera avec un incroyable coffret les 150 ans de la mort de Berlioz. Vous vous rendez compte, Eva ?
Je préfère Patrick Fiori, je crois.
Oui. Dans ce cas, je vous ferai ausculter par le docteur Ichou, qui vous orientera certainement vers un service de psychiatrie, seul à même de vous ramener à la raison. Le docteur Ichou qui nous parlera ce matin de la liste noire des médicaments à éviter. En attendant, un peu de musique avec... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula. Non, n'exagérons pas, va plutôt écouter une belle chanson, voire plutôt la plus belle des chansons de ces 5 dernières années, bande originale de la série Big Little Lies, River, Leon Bridges sur Europe 1.
Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you 10,000
miles gone. Oh, I wanna come near and give you every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness I remember Mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord and it'll wipe your slate clean. Take me to your river. I wanna go. Oh, go. Take me to your river.
Leon Bridges sur Europe 1.
Il est 5h15. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
L'avion qui transportait Emiliano Sala a été localisé au fond de la Manche par l'équipe de sauveteurs mandatée par la famille du footballeur porté disparu avec son pilote depuis 2 semaines. Ses recherches ont été financées par une cagnotte en ligne. Gérald Darmanin reste au gouvernement. Le ministre du Budget l'annonce dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Depuis plusieurs semaines, le rumeur d'un départ circulait, notamment après le décès du maire de Tourcoing. Gérald Darmanin qui assure qu'il y sera candidat au municipal en 2020. Enfin, Emmanuel Macron dans l'Essonne aujourd'hui à Évry-Courcouronnes. Rencontre avec 300 élus, représentants d'associations, mais aussi des habitants. Premier déplacement en banlieue dans le cadre du Grand Débat.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 4 février. Et à l'heure de passer au pronostic épique, j'espère que pour une fois Thierry Léger va écouter ce que je dis dans mon lancement. Vendredi, c'était pas encore ça. Hein. Qui va gagner à Pau cet après-midi? C'est l'heure des pronostics épiques. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Pau et Montpellier.
Oui, je viens de le dire.
Il n'écoute rien.
Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Vincennes et mon pari gagnant sera le 117 Titanium Gar. Ce trotteur né et élevé en Italie, mais entraîné depuis le début de sa carrière en Hollande, effectuera le déplacement jusqu'à Vincennes avec de solides arguments. Parmi les 17 chevaux au départ de ce quintet, c'est lui qui possède les meilleurs titres. 20 victoires en 33 tentatives, avec la meilleure réduction kilométrique sur le parcours qu'il empruntera cet après-midi. Idéalement engagé, il devrait pouvoir justifier la confiance sans réserve affichée par son entourage. Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1, dans la première course, le numéro 17, Titanium Gar.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et au moment d'ouvrir cette séquence souvent gratinée où je fais découvrir les coulisses des nuits toujours olé olé des membres de la colloque DLC, je pense ce matin, une fois n'est pas coutume, jouer la carte de la sobriété en me contentant de la vérité.
Oh non !
Si mes amis, faut cesser de laisser croire à nos auditeurs que nous menons une vie dissolue, sans compas moral et que Jérôme Lacroix se balade en slip tout le temps.
Oui, c'est vrai.
Mais non, c'est faux ! C'est faux ! Ou encore que Céline Dacosta, quoique mariée, reste...
ouvert à toutes les rencontres scientifiques.
Non ! Non plus ! Non, chers auditeurs, ce tableau n'est pas fidèle à la réalité, beaucoup plus prosaïque et banale. Celle d'une colocation très bien tenue par des adultes responsables. Autre point important à signaler, contrairement à ce que d'aucuns auraient laissé entendre, à savoir qu'on serait un peu ringard, voire ringardos, notamment sur le plan de nos goûts musicaux, plus ancrés dans les années 60-70 que parmi les artistes contemporains. Là encore, énorme fake news, comme le prouve notre soirée karaoké de samedi.
Qui saura me faire oublier, dites-moi.
Voilà, en attendant le coup de fil de Radio Nova qui voudra certainement nous débaucher, on passe au pressing. Notre revue de presse en mode zapping. À la une de vos quotidiens ce matin, les amis, des sujets plutôt inattendus, Le Parisien propose un dossier intitulé « Comment se faire embaucher ?» avec tous les secteurs qui recrutent actuellement. Libération a organisé un dialogue entre deux penseurs, Edgar Morin et Alain Touraine, avec ce titre « Une humanité de pensée ». Quant à Lacroix, le quotidien choisit de s'intéresser aux failles du géant chinois et notamment aux faiblesses de son système économique. Ça va être intéressant comme article. Mais vous, mes pisteurs de l'info, qu'avez-vous trouvé dans la presse ce matin, Eva ?
Eh bien, on reste avec La Croix de ce matin, mais dans les pages culture, avec la presque bonne nouvelle de la semaine. Les musées français sont victimes de leur succès. Face à l'afflux de visiteurs, les musées tentent de s'organiser. 10 200 000 personnes uniquement pour le Louvre en 2018, record du monde. 8 100 000 autres au domaine royal de Versailles. À la Fondation Vuitton, au musée Jacques-Marandré, il fait un peu trop chaud dans les salles. L'espace est réduit et la découverte des œuvres relève parfois du sport tellement il faut jouer des coudes. Et c'est comme ça depuis 2 ans, depuis que la fréquentation ne cesse de croître et ça va continuer. On prévoit entre 2 et 5% d'augmentation dans les prochains mois et sans doute encore plus en 2024 avec les Jeux Olympiques, bien évidemment, qui seront organisés à Paris. Alors un motif de réjouissance, évidemment, mais comment on organise ce flot de visiteurs afin d'éviter notamment les longues files d'attente ? Eh bien, les musées se refusant à limiter le nombre d'entrées, les établissements y cherchent d'autres solutions. Double entrée au Louvre, par exemple, ou la rénovation de la salle accueillant la Joconde, qui est également à l'étude. À Versailles, il y a 2 nouvelles salles qui sont ouvertes au public. Et puis, des négociations sont en cours avec les syndicats pour fermer le château plus tard en été, 20h au lieu des 18h. Cette option, d'ailleurs, ouverture tardive, est envisagée par plusieurs autres musées. Au Louvre, le président Jean-Luc Martinez veut même aller plus loin. Et alors là, c'est là que la bonne nouvelle n'est pas si bonne que ça. La clé pour nous, dit-il, c'est la réservation suggérée, voire obligatoire, sur des périodes ou des événements chargés. Ce sera le cas, par exemple, à l'automne prochain avec l'exposition consacrée à Léonard de Vinci. Vous serez obligé de réserver votre place. Au Grand Palais, c'est un système de réservation obligatoire qui est également envisagé. Et en revanche, à la Fondation Louis Vuitton, on se refuse à mettre en place cette possibilité en disant qu'il faut conserver cette spontanéité de la visite.
Oui,
il reste toujours quelques places. Voilà. Vous, qu'en pensez-vous ?
Bah pareil.
Oui, moi je pense qu'il faut conserver. Mais de toute façon, ça existe. Et pour les billets coupés,
ceux
qui veulent vraiment préparer leur.
Voilà, c'est pour éviter.
Qui veulent être sûrs de ne pas perdre trop
exactement
de temps. Mais sinon, si on flâne et que par chance, il n'y a pas trop de monde, qu'on puisse y aller, c'est quand même bien.
Exactement. Et bien, il y a certaines expositions.
C'est avec mon modeste avis.
Oui, mais il y a certaines expositions qui vous seront fermées parce que la réservation sera obligatoire. Jérôme Lacroix, un avis.
Alors Jérôme s'en fout, je veux dire, il est en train de regarder. Il y avait le tour. Il y avait sur une chaîne télé qui est diffusée dans le studio. Il y a le Tour de France, le Tour d'Europe des stades. Et je vois Gégé qui regardait les matchs de foot.
Non, je suis d'accord, j'imagine la frustration. On veut aller à un endroit, notamment avec, par exemple avec les enfants. Moi, j'imagine souvent avec les enfants.
Si on arrive,
par exemple, à Versailles, on arrive. Ah bah non, c'est fermé. Voilà. Voilà,
il faudra
donc
bien vous organiser.
Attentivement.
Mais c'est quand même réjouissant parce que ça veut dire que les gens vont de plus en plus au musée.
C'est quand même une bonne nouvelle.
Exactement.
Merci Eva. Céline Dacosta.
Alors moi je vous parle d'une histoire trouvée dans Aujourd'hui en France, une histoire digne d'un film, un film angoissant. Hein, si on se met à la place de Maud Colombo qui a décidé il y a quelques mois.
Déjà elle s'appelle Colombo.
Ouais, déjà c'est vrai, c'est pas faux. Elle a décidé il y a quelques mois de s'installer avec sa famille, son frère et ses parents handicapés dans un hameau isolé près de Courneau dans l'Hérault pour y monter un centre équestre.
Là déjà on est dans du Stephen King.
On y est déjà. Alors leur maison en plus est au milieu de la forêt, reliée à la route principale par un petit chemin. Et Maud n'imaginait pas en venant vivre là qu'elle pouvait rester bloquée chez elle, bloquée par la neige qui est tombée ces dernières semaines et qui risque encore de tomber. Ça fait 12 jours que Maud vit là sans pouvoir sortir chercher les médicaments dont ont besoin ses parents, de la nourriture pour ses chevaux, ils n'ont pas mangé depuis 3 jours, ou encore de l'essence pour le groupe électrogène qui fournit la maison en eau potable et en électricité. 12 jours qu'elle appelle à l'aide au niveau des 2 mairies qui jouxtent sa propriété, et même si 2 conseillers municipaux sont venus les ravitailler vendredi, la réponse des élus est claire, c'est un chemin rural qui doit être entretenu par les propriétaires. Alors c'est vrai, mais quand les propriétaires se sont installés là depuis 5 mois, sans savoir qu'il leur faudrait un tracteur pour déblayer la neige, sinon ils ne pourraient plus sortir de chez eux. Moi je dis que ça mérite quand même un petit coup de main, on appelle ça la solidarité. Et c'est là-dessus qu'elle compte désormais Maud, hein, qui sur sa page Facebook a lancé un appel à l'aide. Elle espère qu'un agriculteur du coin viendra les aider avec son tracteur à déblayer cette neige qui les empêche de reprendre une vie normale. L'habitation la plus proche, elle est à 4 km. Le village le plus proche, un petit peu plus loin. Alors, sait-on jamais ? On sait que les agriculteurs se lèvent tôt. Peut-être qu'il y en a un qui nous écoute en ce moment. Alors, si vous habitez près du village de Cornu,
Cornu,
dans l'Hérault, bah voilà, sachez que Maud Colombo et sa famille ont besoin de vous. Solidarité, les amis. C'est une histoire à lire dans Aujourd'hui en France, dans
les
pages
régions. Je suis sûre
qu'on
en reparle demain matin, Céline, parce qu'entre-temps, il va y avoir un agriculteur qui va venir les aider. J'en suis persuadée.
Allez,
quand vos yeux brillent comme ça, je crois que vous imaginez en plus un agriculteur qui serait un peu sexy.
Ah, il y a l'amour dans le pré ce soir sur M6.
C'est vrai, oui.
Et qui arriverait torse nu sur son tracteur.
Torse nu avec la neige, vous avez raison.
Oui, mais c'est ça.
Il y a du chauffage dans les tracteurs.
Exactement. Jérôme Lacroix.
Dit-elle,
toujours la même idée. Dit la
connaisseuse.
Tout est bon. Pour un peu d'érotisme. Jérôme Lacroix.
Oui, alors, vous évoquiez dans vos titres le dossier que consacre du Parisien Aujourd'hui en France, pardon, ce matin, avec ce titre en une, comment se faire embaucher. Alors, dans ce dossier, il y a un papier, moi, qui m'a beaucoup intéressé, un papier conseil, truc, astuce, quoi, pour le capital entretien d'embauche. Le journal a demandé à deux experts leur lumière. Comment bien procéder lors de ce rendez-vous fatidique qui peut tout changer avant, pendant,
déjà se raser, pas
et
comme
après
moi
l'entretien. Ouais, alors avant l'entretien, construire un CV clair et concis, c'est ce qui ressort principalement.
Ah ouais,
moi j'ai appris,
j'ai appris ça.
L'un des experts révèle que le recruteur observe en moyenne 30 petites secondes le CV du candidat.
Ça me paraît beaucoup.
Je pense qu'on peut. Enfin, moi, je me souviens. Parfois, je passais vraiment longtemps à faire mon CV. Je me dis si c'est rien que 30 secondes.
Et vous imaginez que la personne passait une heure à lire.
Voilà, je suis un romantique du CV, que voulez-vous. Il faut donc aller à l'essentiel, ils disent. Surtout ne pas le surcharger, voilà, et puis faire ressortir. Alors, ça aussi, c'est pas mal. Ce qui correspond le mieux à l'entretien que vous êtes en train de passer. Si vous passez, bon, évidemment, vous passez pas des entretiens dans des domaines très différents, mais un petit peu différents pour des postes bien définis. Bah, il faut penser
il faut
en fait
plusieurs CV,
à chaque
plusieurs
fois. Changer, ouais, voilà, ouais. Réactualiser en quelque sorte son CV. Même démarche avec la lettre de motivation. Changer quelques mots, changer un petit paragraphe qui correspond exactement à ce que vous voulez. D'ailleurs, à propos de la lettre de motivation, la rédiger à la main et non à l'ordinateur,
ah bon,
ça peut vous permettre de vous distinguer.
Ah,
parce
pas moi, parce que vu comme j'écris,
alors,
pas à la main.
Moi, je la ferai
écrire par quelqu'un,
mais... je pense aussi. Oui, exactement, je suis gaucher en plus. Laisse tomber. Pendant l'entretien, alors ne complexez pas si vous n'êtes pas bardé de diplôme. Ce qui compte aussi énormément, ça rejoint un peu à ce que vous disiez, Mathieu, c'est globalement le comportement et l'apparence, ça rentre aussi dans cette catégorie-là. Alors, quelques astuces très concrètes. Mettre devant soi un carnet et un stylo, même si vous n'écrivez rien, c'est pas faire genre, mais ne pas laisser son téléphone portable sur la table. Tout ça, ça permet de créer du lien, selon l'un des experts interrogés, et le faire dès le début, parce qu'un recruteur prend la décision d'embaucher ou pas dans les 5 premières minutes de l'entretien. C'est donc capital. N'oubliez pas, bien sûr, l'essentiel. Politesse, sourire, modestie, et puis un petit peu de culture d'entreprise aussi.
J'aime
voilà.
ce portrait que vous faites de
vaut
moi.
Vaut mieux être renseigné au préalable. Et alors, après
ça,
l'entretien, voilà, après l'entretien, une fois que cette épreuve est passée, c'est le moment de parler salaire. Alors, aborder très tôt le montant et donner un chiffre risque de vous desservir, dit l'un des experts. Surtout que cette question pose rarement un problème. Si l'entreprise souhaite vous embaucher, poursuit-il ? Bon, ça peut, oui. C'est peut-être plus subjectif. Voilà. La bonne méthode, c'est de demander en fait une fourchette, pas un chiffre précis, un peu au-dessus de ce que vous voulez, par exemple. 32 000 euros annuels, si vous visez 30 000, voilà. C'est un dossier et un papier truc et astuce assez sympa à lire dans le
Parisien. Mon conseil, demandez 40. Bon, bah voilà. Merci beaucoup, Jérôme Lacroix, pour ces conseils de lecture dans la presse du jour. Merci, les amis. Merci, le pressing referme ses portes, comme notre colocation d'ailleurs. Céline, un résumé de notre vie en communauté jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien ?
Tout le monde veut que ça se passe bien au lit.
C'est le secret, je vous le donne, chers auditeurs.
Vous voulez dire qu'on dorme bien, c'est ça, en fait.
C'est ça. Évidemment, c'est
il
ce
est
que je veux dire.
5h26,
arrêtez avec
Noël.
Cet accent du sud. Hein.
Debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zélani. Hilarant réveil à l'écoute d'Europe 1.
Tu savais que le nerf optique, c'était le nerf le plus
important. Non, merci Eva Zélani, c'est fini l'anniversaire de Jean Jaurès.
Europe 1.
7h, Mathieu Noël, il est 5h27.
Céline, faisons un point sur la météo du jour.
Oui.
Que se passe-t-il ? Vous me dites qu'il fait froid, qu'il fait même très froid. Et la grisaille est là, hein, hélas.
Effectivement, un début de semaine gris sur les trois quarts du pays déjà ce matin, avec une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne. Elle apporte de la pluie et du vent, des rafales entre 60 et 70 km à l'heure. Ciel bien voilé de l'Aquitaine aux Hauts-de-France et puis encore quelques éclaircies sur l'Est. Soleil même, un grand soleil près de la Méditerranée. Et risque d'avalanche sur le sud des Alpes. La Corse, elle reste sous un ciel mitigé. avec du vent et encore de la neige ce matin sur le relief.
La neige justement, on en aura un peu cet après-midi.
Oui, cette perturbation va avancer, apporter un petit peu de neige sur les collines normandes en fin d'après-midi. Ça pourrait être de la pluie et neige mêlée sur les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, la Touraine, l'ouest de l'Île-de-France jusqu'au Hauts-de-France. Pour les autres, le ciel restera bien couvert. On aura un ciel un petit peu plus lumineux toujours sur le flanc est. Grand soleil encore sur le pourtour méditerranéen et retour d'un temps plus calme sur la Corse.
Un mot des températures.
Avec des gelées matinales généralisées, des températures légèrement sous la normale de saison, moins 4 degrés à Jean en ce moment, moins 3 à Mulhouse, moins 2 à Bourges, à Nancy, à Bordeaux, moins 1 pour Orléans et Tarbes, il fait 1 degré à Lyon en ce moment, 0 à Paris et Lille, 4 à Nîmes, 6 à Perpignan et 9 à Vannes. Et puis cet après-midi, la moyenne ira de 2 à 8 degrés généralement, et puis un petit peu plus près de la Méditerranée, puisqu'on aura 11 à 15 degrés sous le soleil.
Merci Céline et Varoc.
C'était la folie du Super Bowl cette nuit, mais vous, quel sport vous aimez regarder à la télé? Non, j'ai regardé juste la fin, les dernières secondes.
Ah oui, voilà.
Oui, exactement. Mais vous, quel sport vous aimez regarder à la télévision? Vous nous répondez depuis ce matin, 5h, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1. Bien, Romarix nous dit justement le Super Bowl. Je crois que c'est le seul sport que je regarde assidûment tous les ans, avec peut-être aussi les compétitions de plongeon lors des Jeux Olympiques quand ils sont diffusés.
Ah oui, c'est quand même très spécial.
Ouais, chose rarissime, c'est vrai, mais c'est spectaculaire. Et Jean-Sébastien nous dit rien de mieux que de regarder un peu de curling pour se motiver, voire se challenger pour la séquence ménage à la maison. Et enfin Olivier nous dit le match du Super Bowl était complètement moisi, il a regardé. Le sport que je préfère regarder c'est le foot, mais le mieux c'est quand même d'aller au stade. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva, merci chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui est à l'info, ce que le clou est à la pâtisserie.
C'est beau à l'extérieur, à l'intérieur c'est comme de la pierre.
À suivre, Rick Azaray croyait que l'amour c'était la santé, aussi chantait-elle naïvement. On sait désormais que c'est un peu plus compliqué que ça. Pour être en bonne santé, mieux vaut avoir un bon docteur. C'est pourquoi chaque matin, le docteur Ichou vous prend le pouls. Aujourd'hui, il revient sur la liste noire des médicaments à éviter, selon la revue médicale Prescrit.
Bienvenue tous sur Europe 1, il est 5h30. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce 4 février 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
L'avion d'Emiliano Sala retrouvé dans la Manche. Il avait disparu il y a 2 semaines dans le secteur de Guernesey. Emmanuel Macron poursuit ses visites dans le cadre du grand débat cet après-midi. Direction Évry-Courcouronnes dans l'Essonne. Et puis le foot, première défaite du PSG depuis le début de la saison de Ligue 1. Les Parisiens se sont inclinés à Lyon 2-1. Les détails dans le journal des sports avec Jérôme Lacroix. Cette fois, c'est donc dans une ville de banlieue que se poursuit le grand débat. Emmanuel Macron se rend à Évry-Courcouronnes, commune de l'Essonne à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, occasion d'échanger avec quelques 300 élus et représentants d'associations. Comme ses autres déplacements, celui-ci a été minutieusement préparé. Enquête dans les coulisses des débats du président Macron, Jean-Rémy Baudeau.
Le président a promis de faire toutes les régions. On a encore pas mal de choix, s'amuse un conseiller. C'est Emmanuel Macron en personne qui décide des lieux de ces débats, qu'ils soient secrets ou non, à charge ensuite à ses équipes, notamment son chef de cabinet, de tout organiser. Une fois le lieu choisi, l'Élysée prépare avec les préfets les thèmes locaux qu'il ne faut pas rater. Dans l'heure, le président avait notamment eu des fiches sur la maternité de Bernay. En général, on peut prévoir environ un quart des sujets, précise-t-on dans l'entourage du président. Le président qui choisit par ailleurs lui-même les ministres qui l'accompagnent, au-delà de Sébastien Lecornu qui anime les débats avec les maires, la liste n'est jamais la même. De quoi créer quelques turbulences dans les agendas ministériels. Certains rêvent d'être choisis, allègent leur planning au cas où. Pour d'autres, le débat vire au casse-tête. En ce moment, je fais un peu profil bas, car suivre le président, ça me fait sauter une journée entière de travail, sourit un membre du gouvernement.
Jean-Rémy Baudeau et jeudi, Emmanuel Macron se rendra en Saône-et-Loire à la rencontre des jeunes. Selon le JDD, le président envisage de consulter les Français via un référendum le 26 mai, jour des élections européennes. Tout est sur la table, mais rien n'est décidé, prévient son entourage. Et puis Gérald Darmanin n'a pas l'intention de quitter le gouvernement. Servir la France est un honneur, une chance, dit-il dans le Parisien ce matin. Alors tant que le président de la République et le Premier ministre me feront confiance, je continuerai ma tâche au gouvernement. L'hypothèse de son départ circulait depuis le récent décès du maire de Tourcoing.
On l'a appris hier soir, Hélène, l'avion qui transportait Emiliano Sala a été retrouvé au fond de la Manche.
Oui, c'est un spécialiste britannique de la recherche d'épaves qui a annoncé la nouvelle. Il avait été mandaté par la famille du footballeur argentin pour tenter de retrouver l'appareil disparu il y a 2 semaines sur le trajet entre Nantes et Cardiff. Réaction du père d'Emiliano Sala, je ne peux pas y croire, c'est un mauvais rêve.
Alors, il est 5h32.
En plein scandale de la viande avariée venue de Pologne, le gouvernement veut mieux protéger les consommateurs français.
Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, réclame en effet la création d'une force européenne d'inspection sanitaire. 2,7 tonnes de cette viande sont arrivées dans 13 pays de l'Union. En France, 300 kilos ont été commercialisés, en partie mélangés à d'autres viandes, ce qui complique leur retrait du marché. À l'origine de ce scandale, un abattoir polonais situé à Kalinowo, dans le nord-est du pays. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1, Hélène Terzian, et vous avez rencontré des habitants encore sidérés.
Oui, il faut dire que cet abattoir, il est un peu perdu au milieu d'un champ enneigé dans un village de 500 habitants. Tout le monde se connaît alors. Rares sont ceux comme Stanislas à s'exprimer au micro.
On achetait tous la viande ici, dans le magasin à côté de l'abattoir. Je suis dégoûté, ma fille et ma nièce y travaillaient. Si elles avaient su, elles l'auraient dit tout de suite. J'en veux au responsable, c'est un crime. J'ose même pas dire que j'habite dans ce village, tellement j'ai honte.
Un choc aussi pour cet éleveur qui assure ne jamais avoir vendu de vaches malades et qui découvre aussi que l'abattoir exportait de la viande à des milliers de kilomètres.
Je pensais que ce petit abattoir, c'était que pour le marché local. Et puis je suis étonné parce que même si on est dans l'Union européenne depuis peu de temps, les agriculteurs font en sorte de respecter les règles et de vendre de la viande saine.
Il craint comme beaucoup l'impact de l'affaire sur la filière bovine polonaise. Les autorités parlent d'un cas isolé, mais le journaliste Patrick Stepaniak, à l'origine des révélations, a reçu depuis un tas d'autres témoignages.
Ma boîte mail est remplie de messages d'anciens employés d'abattoirs, d'anciens vétérinaires et même parfois de certaines autorités qui savaient que ce genre de pratique avait lieu dans leur région. Donc ça n'arrive pas que dans 3 ou 4 abattoirs.
Les experts européens arrivent d'ailleurs en Pologne aujourd'hui pour évaluer la situation.
Hélène Terzian, envoyée spéciale d'Europe 1 en Pologne. Ces noms, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, rejette l'ultimatum de plusieurs pays européens, dont la France, qui lui demandait l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Il refuse, selon ses propres termes, de faire preuve de lâcheté face aux pressions. Les membres de l'Union ont menacé de reconnaître son opposant, Juan Guaido, comme nouveau président dès aujourd'hui. Et puis des inondations exceptionnelles en Australie. Là-bas, on parle d'un événement qui n'arrive que tous les 100 ans. Les militaires ont déployé des véhicules amphibies pour aller récupérer les habitants. Il y a tellement d'eau dans les rues que des crocodiles ont été repérés en pleine ville. L'Australie venait de connaître son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré.
Ah, les crocs. Non. C'était le journal d'Hélène Zelani. Merci Hélène. Je crois que vous voulez me dire quelque chose.
Je fais ce que vous voulez.
Ah ben, j'ai une petite idée, c'est mais vrai. Je vous dirai plutôt hors antenne. En attendant, Hélène, si je vous dis que Jérôme Lacroix a eu un empêchement et qu'il n'est pas là.
Il n'y a pas de mots pour dire à quel point mon cœur saigne.
C'est chez Bollard, Caramilla. C'était une blague. Voici le journal des sports.
Caramilla, il a menti.
Et les gagnants, Jérôme, sont les Lyonnais.
Les footballeurs de l'OL sont les premiers à faire tomber le PSG cette saison en Ligue 1. Défaite de 1 dans le Rhône au clôture de la 23e journée. Ces Lyonnais menés dès la 7e minute. Après un but de Di Maria, ils ont renversé le PSG grâce à Dembélé puis Fekir. L'entraîneur lyonnais Bruno Genesio aux anges.
Je suis très très heureux, très fier des joueurs parce que être capable de revenir comme on l'a fait en étant mené très tôt dans la partie face à une équipe comme Paris. Il faut premièrement beaucoup de caractère, deuxièmement beaucoup de qualité. On a réussi à les bousculer, on a réussi à se créer beaucoup d'occasions en première mi-temps, à revenir au score et ensuite on a su faire la différence en deuxième mi-temps sur le pénalty et on a su résister.
La défaite tombe mal pour Paris dans 8 jours. Mardi 12, c'est Manchester United, 8e de finale d'aller de Ligue des Champions en Angleterre, sans Neymar blessé, qui sera difficile à suppléer, hein, si on en juge la prestation d'hier soir. Qui plus est, ces Mancuniens ont obtenu hier un 9e succès en 10 matchs depuis que le nouvel entraîneur s'appelle Solskjaer et non plus Mourinho. 1-0 à Leicester avec encore un très bon Paul Pogba. Et malgré la défaite en France, Paris reste largement premier de la Ligue 1, 10 points devant les Lillois, 13 devant les Lyonnais, 3e.
Ce Lyon-PSG d'hier a également été marqué par un hommage à Emiliano Sala.
Des applaudissements à la 9e minute en écho au numéro de l'attaquant à Nantes. C'est pendant la rencontre d'hier soir qu'on a appris que l'épave de l'avion dans lequel il se trouvait avec son pilote avait été retrouvée dans la Manche. À l'issue du match, le défenseur Léo Dubois, aujourd'hui lyonnais mais ex-capitaine d'Emiliano Sala à Nantes, a fait part de son émotion.
Je pense tous les jours à lui, je pense tous les jours à sa famille. Voilà, c'est quelque chose de dramatique ce qui s'est passé. C'est des choses qui sortent du contexte football et Emiliano il mérite tout cet engouement autour de lui parce que c'est un mec super. On aime le foot ou pas, on est tous dans le même bateau pour essayer de retrouver Emiliano parce que sa famille pardon le mérite et ça va répondre à beaucoup de questions pour eux.
Des propos recueillis par Julien Froment.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
Presque incontournable ce matin. Tom Brady, l'Américain, 41 ans, qui est devenu cette nuit le joueur le plus titré de l'histoire de son sport, le foot américain. Sixième Super Bowl, le Super Bowl, la finale du championnat de foot américain, remportée 13-3 par l'équipe de Brady, donc les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, équipe près de Boston, face aux Rams de Los Angeles. Et comme chaque année, le clou de la soirée, qui est un véritable spectacle, c'est le concert de la mi-temps.
Apparemment, était mieux que le match.
J'adore. Ah oui, super beau. Hein.
Super beau, super ennuyeux.
Maroon 5,
ouais. Et pourquoi c'était super ennuyeux?
Ah bah, parce qu'il n'y a eu qu'un seul touchdown.
Ah, qu'un seul touchdown, ce qui est l'équivalent de laisser un petit peu. Voilà,
mais il n'y en a eu qu'un seul, c'est rarissime.
Mais c'est pas la peine de se foutre de ma gueule en régie, mais... parce qu'ils se foutent de ma gueule en régie, parce que je simplifie à outrance le football américain, c'est ça?
Oui, c'est pas fou. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aplatir le ballon dans l'ombre, il suffit
d'avancer.
Maxime Chatham, qui est fan de Super Bowl américain, qui s'y connaît très bien et qui a regardé le match, disait que c'était un match de stratège.
Très, très défensif.
Mais pour les donc amoureux, les connaisseurs, ça devait être un match intéressant.
Oui, il y avait de l'intensité parce qu'il y a eu 3-0 pendant longtemps. Voilà. Bref.
Très très bien, merci. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Céline, si vous avez un message à faire passer à votre GG concernant votre soirée d'hier, c'est le moment. À mot couvert, évidemment, je vous prie.
J'attendais la grosse brève, mais elle était quand même très très grosse.
Oui, il faudra vraiment travailler sur le codage, hein, y a un problème.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'infos et de bonne humeur avec en prime de fort bons conseils. Médicaux d'abord, avec notre point santé. Ce matin, le docteur Ichou évoque la liste noire des médicaments évités qui vient d'être mise à jour par la revue Prescrire. Et puis, les conseils de nos experts culture et nouvelles technologies. Aujourd'hui, dans lundi, les bons tuyaux, on fêtera notamment les 15 ans de Facebook. Espérons que ça ait un peu plus de gueule que l'anniversaire de la femme de Jérôme Lacroix.
Bon anniversaire ! On aurait pu lui faire un petit gâteau.
Oui, on aurait pu. Ouais. Mais c'est bien d'avoir l'idée. Là.
C'est l'intention qui compte.
Ah, c'est gentil, elle va être contente.
Ouais, je pense que ça sera mieux l'anniversaire de Facebook.
Le 5-7 d'Europe 1, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, c'est l'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine.
Et oui. Mm-hmm. Et oui, Céline.
Merci Rénoval.
Et merci Rénoval. Et quel est le temps pour aujourd'hui, Céline? Parce que du coup, j'ai oublié le soleil qui résiste près de la Méditerranée.
On s'est fait surprendre.
Ah oui.
Oui, et là aussi, sur le flanc est, hein, le soleil, on en aura un petit peu. De l'Alsace aux Alpes. Attention au risque d'avalanche encore présent sur les Alpes du Sud. Ailleurs, ça va rester assez gris, hein, surtout cet après-midi. Et puis, une nouvelle perturbation arrive déjà ce matin par le nord-ouest, avec de la pluie, du vent, neige même sur les collines normandes en fin d'après-midi. Pluie et neige mêlée possible du Poitou-Charentes au Hauts-de-France en passant par l'ouest parisien. 2 à 8 degrés, c'est la moyenne côté température pour cet après-midi, jusqu'à 15 degrés encore près de la Méditerranée, notamment pour Nice ou Ajaccio.
Merci Céline. Eva Rock.
Et bien d'en parler, c'était la folie superbe cette nuit. Mais vous, quel sport vous aimez regarder à la télévision? C'est la question qu'on vous pose depuis ce matin 5h. Et sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, Marie, elle nous dit le tennis, mais pour Raphaël Nadal, avec une photo de Raphaël Nadal. Quentin, lui aussi, il adore regarder le tennis avec ses matchs à rallonge et souvent à grand suspense, mais il aime aussi la descente de ski. Et je reconnais que c'est pas mal, c'est spectaculaire,
c'est très spectaculaire
quand c'est diffusé. Exactement.
Moi, ça me fait peur, j'arrive pas à regarder. J'ai peur qu'il tombe. Parce que peut-être que je suis trop dans l'empathie, vous voyez. C'est un peu mon problème dans la vie en général.
Ah bon?
Oui.
D'accord.
Bon, on passe à la
ça
suite.
S'entend pas.
Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
L'heure de notre rendez-vous santé avec le docteur Marcel Ichou. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
Dans la mise à jour annuelle de sa liste noire des médicaments, la revue Prescrire met en cause le rapport bénéfice-risque de 6 nouveaux produits et parmi eux, des produits bien connus du grand public, Marcel Ichou.
Oui Mathieu, et votre sensibilité va encore vous poser des problèmes parce que là, nous allons parler de produits très courants comme vous savez le décontractile par exemple, ce baume contre les contractures, vous ne mettez jamais ça Mathieu?
Ça
après
m'est arrivé,
jamais, vous n'avez pas de courbature. Eh bien ce produit contient un principe actif, la méphénésine, qui peut avoir des conséquences cutanées, neurologiques, des réactions allergiques assez graves. Des abus, voire des dépendances. Donc, on est très prudent avec ce type de produit. Un autre produit que vous connaissez tous, ce sont les produits, les sirops pour la toux, qui contiennent cette fois de l'oxomémazamine, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très difficile à dire. Mais vous connaissez aussi l'Umex, qui est contre la toux et qui peut entraîner des problèmes neurologiques. Enfin, je parle des vasoconstricteurs, ces pulvérisations nasales, qui, elles, peuvent donner des accidents cardiaques vasculaires graves. Voilà.
Carrément. Bon, alors on doit vraiment avoir peur de prendre ces médicaments? Il faut arrêter?
Alors, je pense qu'il faut quand même prendre du recul par rapport à tout ça. Certes, ces effets secondaires sont vrais, avérés, mais extrêmement rares. Donc, ne paniquons pas, ces effets sont, encore une fois, extrêmement rares. Le problème, c'est que le médecin est dans une difficulté de ne pas donner de médicaments. On pourrait évidemment se passer de tout ça, mais imaginez dire à quelqu'un qui vient parce qu'il tousse, parce qu'il a de la fièvre, ne prenez rien, ça n'est pas possible. Donc l'idée, c'est essayer d'expliquer et donner le moins de médicaments possible. Et pour l'illustrer, c'est le syndrome grippal où les gens vous disent « j'ai mal à la tête, j'en peux plus, j'ai des courbatures, j'ai mal à la tête ». Et ils veulent quasiment un médicament pour tout. Non, il ne faut pas un médicament pour tout, il faut leur expliquer que ça va passer, mais c'est extrêmement compliqué.
Sinon, mettez du baume du tigre. Moi, c'est mon conseil. C'est bon, le baume du tigre, ça.
C'est
pas,
ça.
Non hein, c'est pas mal. Merci, docteur Ischou. On se retrouve demain, 5h40.
Europe 1.
Il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe sans vous assommer, tout en pensant à vos loisirs. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on regarde en replay sur nos tablettes? Les réponses sont dans lundi, les bons tuyaux, où l'on souhaitera également un joyeux anniversaire à Facebook qui fête déjà ses 15 ans. Oui, oui, merci Patrick, je suis sûr que Marc sera très touché, mais...
On ne dit pas de mal de Patrick.
Merci Patrick, merci. Un disque, un autre disque. Qu'est-ce que c'est que ça? Bob Sinclair et Robbie Williams, Electrico-Romantico, pourquoi pas? Everybody's got to be automatic in your electrico-romantico. Trying to find midway through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. Come on, you and me. Yeah, we're gonna find a way. Yourself, let go, come be a friend of mine. I keep your tan alive. The water's warm and beautiful, just come outside. Ah, you and me, yeah, we're gonna find a way, yeah, and you need me, so unplug yourself, let go. Electrico, Romantico, Bob Sinclair et Robbie Williams. Énorme, énorme folie dans le studio d'Europe 1 ce matin.
Europe 1. Il est 5h47, Mathieu Noël.
Thierry descendait de la table, Thierry Geoffretin qui était monté sur la table pour guincher. À suivre, vous aimez Berlioz, vous aimez les web documentaires, vous aimez Facebook, Révélation et Bon Plan sont dans lundi les bons tuyaux.
Il est 5h48, voici l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
L'avion qui transportait Emiliano Sala a été localisé au fond de la Manche par l'équipe de sauveteurs mandatée par la famille du footballeur porté disparu avec son pilote depuis 2 semaines. Ses recherches ont été financées par une cagnotte en ligne. À Marseille, 3 mois après le drame de la rue d'Aubagne, 8 morts dans l'effondrement de plusieurs immeubles, 2000 personnes évacuées. Selon un rapport, 200 immeubles sont concernés par un risque d'effondrement. 2 d'entre eux vont être détruits demain, c'est au menu du conseil municipal d'aujourd'hui. Enfin, la France devrait reconnaître aujourd'hui l'opposant Juan Guaido à la tête du Venezuela. Le président élu Nicolas Maduro a rejeté l'ultimatum des pays européens, dont la France, qui demandait l'organisation d'une nouvelle élection.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce lundi 4 février. Et à l'heure de passer au pronostic hippique, je le rappelle aux sceptiques.
Le cheval, c'est génial.
Se foule pas pour les paroles quand même, hein, les mecs.
Oh bon, quand même, c'est pas mal. Bonjour José Coves.
Bonjour les amis, 17 trotteurs se lanceront au départ de la première course à Vincennes, mais 5 favoris en tête, le 17 Titanium Gare, le meilleur en classe pure. En revanche, ce n'est pas la sécurité sociale. Le 16 Champion Doré, lui, est moins doué mais beaucoup plus fiable. Les 2 compagnons d'écurie, le 15 Cagnard de Béton et le 3 Carman, ont parfaitement le droit de lutter pour les premières places. Attention à l'italien Ticket to Ride, le numéro 6, il nous arrive avec dans ses bagages plusieurs victoires. 3 autres candidats peuvent monter sur le podium. Le 5, célèbre de foot, il vient de marquer un beau but. Le 12, Caragédé, il visera plutôt la 5e place. Et enfin le 14, Cactus Dibel, uniquement si on le juge sur ses meilleurs titres. Voici donc mon ticket pour cette première course vers 13h45. D'abord le 17, le 16, le 15, le 3 et le 6. Et l'on ajoute le 5, le 12 et le 14.
Dites-moi José, Titanium Gare, c'est le meilleur, mais ce n'est pas la sécurité sociale. J'ai du mal à comprendre.
Je vous explique. Titanium Gare, le 17, s'est baladé sur ce parcours en juin dernier. Ça, c'est vrai. Depuis, il a été disqualifié à 2 reprises et on ne l'a pas vu en piste depuis la mi-septembre. 5 mois, c'est beaucoup. Mathieu, vous comprenez maintenant pourquoi ce cheval favori pose question.
Je comprends beaucoup mieux. Merci pour cet éclaircissement.
Il est 5h50.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici lundi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Grégoire Martinez pour l'actu du web et pour la musique classique. Celui qui s'inscrit parfaitement dans le nouveau cahier des charges musicales d'Europe 1 qui est, je vous le rappelle, de plus collé au son d'aujourd'hui pour capter un public de jeunes. Il sait d'ailleurs leur parler, il connaît leur code.
Comme disait Georges Segui, on va pas désespérer Billancourt. Hein.
Bonjour Thierry Geffrotin.
Oui, bonjour Mathieu.
Vos amis les jeunes sont comme des oufs aujourd'hui puisqu'on fête les 150 ans de la mort de Berlioz.
Eh oui, alors je vous propose une petite devinette musicale qui a écrit ceci.
Mathieu a donné la réponse.
Ben, si, oui, mais si vous me répondiez Louis de Funès. Mais oui, dans la grande vadrouille, Stanislas Lefort, vous savez, quand il dirige, eh bien non, ce n'est pas de Funès, en effet.
C'est
Berlioz, Hector Berlioz, un géant d'ailleurs.
Mais je le savais, moi, personnellement.
Mais oui, vous le saviez. Un géant dont on commémore cette année, donc le 150e anniversaire de la mort, ce qui nous vaut un coffret de 27
il est très beau.
CD chez Warner. J'ai regardé le prix, on doit pouvoir le trouver à moins de 60€. Hein, 27 CD, très beau coffret. Berlioz, un géant, parce qu'il a composé des œuvres grandioses, entre autres un Tédéum, une symphonie fantastique, qui est vraiment fantastique, un opéra XXL, Les Troyens à l'affiche en ce moment à l'Opéra de Paris. Une série Mélodie aussi avec accompagnement très très beau. Hein. C'est les nuits d'été. Berlioz qui est devenu d'ailleurs compositeur contre la volonté de ses parents. Son père était médecin et il voulait que Hector soit aussi médecin en fait.
Et est-ce qu'on trouve vraiment toutes les œuvres de Berlioz dans ce coffret-là ?
Oui, tout. Et alors c'est extraordinaire ce qu'on trouve même des raretés comme un hymne, un chant que Berlioz a composé sur une commande d'ailleurs hein, pour l'inauguration de la ligne de chemin de fer Paris-Lille en 1846, alors à l'époque on mettait les moyens, croyez-moi, et c'est grandiose. On n'avait pas le TGV, mais on avait Berlioz.
Ah oui.
Il faisait les choses dans le vent, la SNCF à l'époque. Alors, moi j'ai calculé, hein, 27 CD, 33€, ça nous met le CD à 2€.
Vous êtes très décevant.
À mon avis, le rapport quantité-poids est intéressant.
Il y a un très beau livret, très très beau livret, écrit par un spécialiste, un Anglais, parce que les Anglais vénèrent Berlioz. À nous de le vénérer à notre tour.
Donc, c'est votre Berlioz, si on a bien compris, c'est votre deuxième coup de cœur juste après, ce qu'on a écouté tout à l'heure.
N'est-ce pas, vous allez dire
Bobby Williams et Bob Sinclair.
Je mettrais quand même Berlioz devant.
Juste un peu devant, mais d'un chouïa, hein, vraiment à la photo finish. Quoi. Merci Thierry. À vos côtés, plus qu'un jeune, un enfant. Grégoire Martinez, notre spécialiste high-tech, qui va nous parler ce matin
atteint des 15 ans de Facebook, le réseau social le plus puissant du monde. Un anniversaire au goût amer pour vous Thierry, puisque je rappelle qu'il y a 16 ans, quand Mark Zuckerberg vous avait demandé 1000 dollars pour l'aider à lancer son projet qui s'appelait à l'époque The Facebook et que vous, qui vous aurait donné 10% des parts de l'entreprise, vous aviez répondu avec ce flair qu'on vous connaît.
De toute façon, moi j'y crois pas beaucoup, j'ai gardé mon Minitel.
Eh oui, dommage pour vous. Alors Grégoire, il y a 15 ans, vous aviez 7 ans et Facebook naissait.
C'est vrai, c'était le 4 février 2004. Mais cet anniversaire, aujourd'hui en 2019, il est plein de paradoxes. Parce que d'un côté, quand vous allez au siège de Facebook en Californie, à Menlo Park, hein, où j'étais il y a quelques jours, tout a l'air d'aller bien, l'ambiance est calme. Et dans les bâtiments historiques, il y a même un petit côté parc d'attractions, monde merveilleux, avec sur le campus pour les employés des restaurants gratuits, un coiffeur, même un magasin réparateur de vélos, une grande salle d'arcade, enfin bref, tout ce qu'on pourrait rêver. Et puis de l'autre côté, si on sort de ce monde merveilleux, Facebook est en pleine zone de turbulence. Et ça, hein, depuis maintenant 2 ans, parce qu'il y a d'abord eu les interférences dans les élections, le vote du Brexit au Royaume-Uni, mais surtout l'élection de Donald Trump en novembre 2016 aux États-Unis. Il y a eu aussi les scandales sur les données personnelles, le fameux Cambridge Analytica du nom de cette société britannique qui a récupéré frauduleusement les données de 87 millions d'utilisateurs pour les utiliser à des fins politiques. Ça, c'était au printemps dernier. Et puis il y a eu aussi, à la rentrée, la découverte d'une énorme faille de sécurité qui permettait d'accéder aux données de certains utilisateurs. Et pour Facebook, tout ça, c'est loin d'être terminé parce que régler ces problèmes, c'est un combat permanent. Encore la semaine dernière, plusieurs centaines de pages qui tentaient d'influencer les utilisateurs ont été fermées.
C'est donc un anniversaire raté pour Facebook.
Eh bien même pas, parce que si on regarde le côté le plus important...
Ils jouent avec nos nerfs.
C'est ça, si on regarde le côté le plus important pour une entreprise, c'est-à-dire l'argent, tout va bien. Les résultats de Facebook de la semaine dernière, ils sont excellents, meilleurs que toutes les prévisions. Mais, et c'est là encore une fois tout le paradoxe, n'est pas vraiment dû à Facebook parce que le nombre d'utilisateurs de Facebook n'augmente plus et son image a été abîmée par les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis même si Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, essaye de reprendre tout ça en main, ce sera compliqué à changer, ça prendra du temps et ça le sera d'autant plus que les jeunes, comme Thierry, ne s'inscrivent plus sur Facebook, ils n'y vont plus. Alors pendant ce temps-là, ce qui fait les beaux jours de Facebook, c'est une autre application.
Instagram.
C'est Instagram, exactement. Mark Zuckerberg l'a racheté alors qu'il n'y avait que 15 salariés et elle a maintenant plus d'1 milliard d'utilisateurs. Et comme le disait un employé de Facebook il y a quelques jours, la plus grande réussite de Facebook ces dernières années, c'est probablement d'avoir racheté Instagram.
Oui, mais bon, c'est intelligent.
Oui, c'est intelligent aussi, ça fait partie du business. Eva Rock.
Alors écoutez, je vous propose de regarder Lève-toi et marche, version 2 de Spicy. Je vous raconte l'histoire. Il y a 4 ans, le journaliste rédacteur en chef de la plateforme de documentaire Spicy, donc Mathieu Firmin, était victime d'un accident cardiovasculaire, moelle épinière touchée, paraplégie, et il s'est battu pendant 1 an pour retrouver l'usage de ses jambes. Il y est parvenu, et il a filmé cette année de rééducation pour rendre compte du quotidien des personnes handicapées. C'était un film formidable dans lequel Mathieu Firmin nous présentait également ses copains de chambre. Alors des garçons coincés dans des fauteuils mais pas dans leur tête. Leur moteur, eux, c'était l'humour et ils l'ont gardé. Mathieu Firmin a aussi gardé contact avec eux. Il se retrouve notamment avec Marius en Thaïlande. Marius qui a décidé de faire un road trip. Alors en fauteuil roulant, je vous dis pas, c'est quand même très compliqué. Et puis on le retrouve à l'aéroport aussi, direction Las Vegas avec Adrien et Brice. Quand l'hôtesse leur demande s'ils pourront un jour marcher, eh bien réponse.
On a essayé la danette mais ça marche pas. Non, mais c'est vrai. Bah, tu sais, dans la pub, là, on se lève tous pour Danette.
Bah, on a essayé.
On s'est pas levé. Voilà, c'est tout.
Ça va pas marcher.
On s'est fait avoir.
Ouais. On peut peut-être porter plainte.
Non, peut-être pas, parce qu'on se lève tous pour Danette. Bah, non, pas tous, en fait.
Bah, voilà, la preuve.
Ils sont hyper drôles. Alors évidemment, la force des films de Mathieu Firmin est de n'éluder aucune question, surtout pas celle de la sexualité. Dialogue avec Brice.
J'ai quand même du mal à croire quand tu me dis que t'es pas frustré. Moi, personnellement, j'ai pas récupérer ma sexualité et ça me frustre.
Bah oui, mais parce que toi tu marches, t'es valide, t'as pratiquement tout récupéré. Que moi j'ai plus mes jambes, j'ai plus la même sexualité qu'avant. Je peux plus marcher, donc la sexualité c'est peut-être un peu bon, c'est chiant, mais c'est plus petit que tout ça.
Alors ce deuxième film, il est aussi réussi que le premier. C'est une plongée au cœur du handicap sans aucun misérabilisme. Vous venez de l'entendre, mais avec une sincérité touchante. Le film est disponible sur Spicy. Je vous encourage d'ailleurs à vous abonner. Vous pouvez acheter que le film, soit 2,50€. Tout est reversé à l'association Adapt qui accompagne les personnes en situation de handicap dans leur réinsertion sociale et professionnelle. Ça s'appelle Lève-toi et marche 2.
Ça me fait penser un petit peu à ce que fait Jérémy Michalak aussi.
Exactement, on est exactement dans le même esprit, vous confirme.
On le salue au passage.
Exactement.
Merci Eva Rock, merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain. Bravo les amis pour vos prestations respectives. Oui Thierry Geffrotin.
Et puis t'as vu, à la fin je donne des idées qui sont pas connes. Hein.
Oui, j'ai vu, c'était super Thierry.
Et les 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Canet.
Il est 5h58, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, ma chère Céline Acosta. Retour de la pluie par le nord-ouest.
Oui, nouvelle perturbation qui rentre sur la Bretagne en ce moment et qui gagnera rapidement le Cotentin. Avec elle, de la pluie, du vent, des rafales jusqu'à 70 km à l'heure jusque dans les terres. Pour les autres, le ciel reste bien voilé. On a encore quelques éclaircies sur le flanc est. Enfin, on les aura tout à l'heure. Et puis un beau soleil près de la Méditerranée. Et ça, toute la journée. La grisaille, elle va gagner du terrain cet après-midi. La pluie aussi, puisqu'on retrouvera notre perturbation entre le Poitou-Charentes et les Hauts-de-France dans la journée. Fin d'après-midi, on aura des flocons sur les collines normandes et flocons où pluie et neige mêlées accompagneront la perturbation. Un mot de la Corse où le ciel est encore un petit peu perturbé ce matin. Ce sera plus calme cet après-midi mais avec toujours un vent sensible sur les caps.
Mais surtout, il fait froid.
Oui, gelée généralisée ce matin. Température bien souvent négative. Moins 4 à 4 degrés, c'est la moyenne. Un petit peu plus près de la Méditerranée, dans le nord-ouest sous la pluie. Cet après-midi, on attend 2 petits degrés à Tours, 3 à Lille, au Mans, 4 à Reims et Nancy, 6 degrés à Caen et Clermont-Ferrand, 7 à Toulouse, 8 à Cherbourg, il en fera 11 à Brest et Biarritz, 13 à Perpignan, jusqu'à 15 degrés à Ajaccio.
Merci Céline.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.